Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte sur l'auto-hébergement avec nos personnes invitées, Angie Gaudion de l'association Framasoft et Yves Gaël-Chény de l'entreprise Empreinte Digitale. Toutes les deux interviennent à distance. Il est par contre ici au studio avec moi, Laurent Costi, administrateur de l'April, qui a préparé ce sujet et qui va animer l'échange. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. Bonjour Laurent, je te laisse donc la parole.
Bonjour Isabella, bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc effectivement, nous allons aborder le sujet de l'auto-hébergement. Alors, on a quatre grandes parties à ce temps. Donc évidemment, on va essayer de définir ce qu'est l'auto-hébergement, parce que tout le monde n'est pas familiarisé avec ce concept. On essaiera de savoir pour quelles raisons il faudrait s'auto-héberger. Bien sûr, on essaiera de dresser quelques pistes de solutions. Ce n'est pas l'objet aujourd'hui d'aborder dans le détail les solutions. Il y aura peut-être une émission ultérieurement qui abordera ce sujet-là, mais néanmoins, on évoquera quelques solutions. Et puis, on évoquera aussi peut-être les limites de l'auto-hébergement. Alors, effectivement, tu as présenté Angie et Yves Gaël. Donc, Angie, est-ce que tu es avec nous? Bonjour.
Bonjour.
Merci à toi. Yves Gaël-Chény est avec nous.
Bonjour.
Bonjour. Alors, je crois que ton pseudo, c'est Herdman aussi, hein, pour ceux qui te connaîtraient sur les réseaux de l'April en particulier, puisque tu avais, je crois, administré un peu les serveurs de l'April à une époque.
Ouais, tout à fait. Pas très longtemps, malheureusement, mais un petit peu, oui.
D'accord. Bah, écoute, tu avais la parole. Alors, je te laisse te présenter un petit peu, présenter un peu ton parcours et puis peut-être aussi ce que tu fais au quotidien comme métier.
D'accord. Donc, je travaille dans une SCOP, en fait, basée sur Angers, qui est également membre de l'April. Donc, je suis doublement membre de l'April à titre personnel et à titre pro. Moi, je m'occupe particulièrement du pôle hébergement au sein de cette entreprise de développement logiciel.
D'accord, il y a combien de salariés dans cette entreprise?
On est une cinquantaine de personnes, dont la majeure partie du coup est associée dans la SCOP.
Très bien, merci. Angie, alors tu es déjà venue dans l'émission, c'est jamais mauvais de rappeler dans quelle association tu contribues au quotidien en tant que salarié.
Oui, je suis salariée de l'association Framasoft où je suis chargée de relations publiques et puis du coup j'ai une partie de mon temps qui est mis à disposition du collectif des chatons. Donc le collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires.
Voilà, et on verra et on comprendra plus tard dans l'émission pourquoi on t'invite par rapport à ce collectif. Voilà, il y a une grande expérience acquise finalement par rapport à la question de l'hébergement et de l'auto-hébergement. Donc ça fait vraiment partie des raisons pour lesquelles on t'invite, entre autres.
Ah, et peut-être une petite précision, désolée de te couper, je ne suis pas une geek. Enfin... Non, je suis pas une geek, c'est-à-dire je suis pas une technicienne. Je comprends pas quand les gens ils parlent de trucs techniques en général. Donc du coup, je pense que c'est nos profils différents avec Herdman, du coup, sont très complémentaires.
Très bien. Alors il y aura deux profils non techniques au départ, comme moi, je ne suis pas non plus technique, et donc Yves Gaël qui sera un peu plus technique parmi nous trois. Donc je vous propose effectivement en essayant d'être le plus pédagogue possible, d'expliquer ce que c'est que l'auto-hébergement. Donc je sais pas, on va peut-être donner la parole à Yves Gaël en tant que technicien, puis comme ça après Angie tu pourras essayer de préciser avec des mots peut-être moins techniques, si Yves Gaël en utilise trop.
Je vais essayer de pas être trop technique quand même. Donc oui, l'auto-hébergement, avant toute chose, je pense que c'est l'appropriation des outils pour soi et leur utilisation au quotidien, en fait, notamment grâce à des briques logicielles fournies par le logiciel libre et grâce à des briques matérielles, comme par exemple ont pu l'être le Raspberry Pi pour démocratiser cela auprès des différents utilisateurs. Donc oui, je pense que d'abord le mot-clé pour moi, ça serait « appropriation ».
D'accord. Et alors peut-être qu'on pourra même remonter un peu plus en arrière avant de définir auto-hébergement. Finalement, est-ce qu'on peut pas définir hébergement et puis parler un tout petit peu de serveur sans rentrer dans la technique?
Oui, bien sûr. Je pense qu'on peut reprendre l'adage que Internet, c'est jamais que des PC connectés entre eux de d'autres personnes. L'hébergement, avant toute chose, c'est mettre à disposition pour soi-même ou pour communiquer avec d'autres ou pour offrir des services à d'autres, des services, des programmes qui sont connectés via le réseau qui est Internet. Donc un serveur, c'est juste une machine qui tourne tout le temps et qui héberge un de ses services.
Merci. Alors, peut-être préciser aussi la nécessité d'une disponibilité dans le temps de cet ordinateur qui est connecté en tant que serveur. Peut-être parler un peu de débit.
Alors, suivant les usages, bien sûr, bah, les débits peuvent être très très variables. Hein. Par exemple, on va prendre, si on veut héberger un serveur pour recevoir et envoyer des emails, le débit n'a pas besoin d'être trop élevé. En fait, la disponibilité, donc le temps de connexion du serveur au réseau, va dépendre de cet usage finalement et des objectifs que l'on a. Autrefois, par exemple, les plus anciens ont pu connaître des serveurs de mail qui se connectaient que quelques heures par jour pour s'échanger les messages. Par contre, si on est sur un serveur de chat, on imagine bien qu'il faut qu'il reste connecté le plus souvent possible. Ou si on veut exposer un site web pour parler de son association ou de son entreprise, bah, il faut qu'il reste disponible sur Internet pour que les gens puissent venir voir ce que vous faites.
Merci. Angie, est-ce que tu veux compléter un peu cette vision de serveur et d'auto-hébergement ?
Bah, peut-être du coup pour rendre ça encore plus compréhensible, en fait c'est dire ce que ça n'est pas, à savoir que globalement, en tout cas quand on s'est pas posé la question justement de l'auto-hébergement, en fait on héberge ses services web chez des prestataires externes. Donc quand on fait du cloud par exemple, on va stocker ces données du coup dans un service de cloud qui est externalisé, qu'on ne gère pas. Quand on fait du mail, en général on utilise une boîte mail et on est rarement, à part si du coup on a fait des choix justement en ce sens, on passe par un prestataire qui, voilà, alors si on n'est pas encore dégafamisé, peut être Google, Microsoft, voilà, si on est plus dégafamisé des services, je pense, je sais pas, comme ProtonMail ou Tutanova ou Posteo, qui sont du coup des services plus éthiques de mail, mais on passe quand même par un prestataire externe. Dans l'auto-hébergement, on ne passe pas par un prestataire externe puisqu'on héberge effectivement son serveur. Alors, chez soi ou pas, c'est une vraie question. Il y a toujours un questionnement sur voilà, qu'est-ce qui relève du vrai ou du faux auto-hébergement, parce que finalement on pourrait considérer que oui, l'auto-hébergement c'est forcément avoir le matériel chez soi à la maison, et en même temps peut-être que du coup quand on utilise un serveur qui est proposé par un prestataire externe mais qu'on gère l'intégralité de ce qui se passe sur ce serveur, on est quand même dans une forme d'auto-hébergement mais avec du coup une distance du matériel qui n'est pas à domicile. Donc je pense que c'est intéressant d'envisager les deux en tout cas.
Oui, je me souviens, c'était des discussions qui circulaient sur la liste chaton. Hein. Il y avait un grand, grand débat autour de cette question de est-ce que l'auto-hébergement, c'est chez soi ou est-ce que ça peut être sur un serveur ailleurs. Finalement, peut-être que la convergence, c'est de dire l'auto-hébergement, c'est quand on maîtrise la confiance qu'on a par rapport à celui qui gère le serveur, en fait. C'est peut-être ça, c'est peut-être la question centrale, c'est bien la question de confiance. Finalement, on peut faire héberger ses données ailleurs que chez soi. Mais ça veut dire qu'on connaît la personne qui héberge les données, connaît les services, on est capable d'interagir avec ceux qui gèrent, quoi.
Alors, je rajouterais quand même une distinction parce que pour moi, dans l'auto-hébergement, il y a le fait qu'on administre ses services. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de compétences techniques qui fait qu'on installe les services sur le serveur, qu'on crée les comptes s'il y a besoin de créer plusieurs comptes, etc. Ce qui est très différent de passer par un prestataire comme Chaton, où là, effectivement, il y a cette confiance envers un tiers, où là, on va carrément, entre guillemets, transmettre cette confiance sur même l'administration des services et on reste utilisateur des services. Donc, pour moi, il y a deux niveaux là dans l'auto-hébergement entre guillemets distant. Il y en a un que j'appellerais pas auto-hébergement, au sens où pour moi on peut pas auto-héberger si on n'est pas techniquement en mesure d'installer les services qu'on veut utiliser.
D'accord, merci.
Sinon on est utilisateur d'un service distant.
Voilà. Et après on peut être utilisateur d'un service distant sans avoir appréhendé, sans avoir consolidé de confiance avec le prestataire ou la personne, et puis on peut être aussi utilisateur un peu averti et avoir à peu près appréhendé comment ça fonctionnait et avoir des contacts. Ça me semble des distinctions importantes parce que finalement c'est bien dans le lien humain que la confiance s'établit et qu'on peut avoir en tout cas une appréhension de la manière dont sont traitées ces données grâce à ça. Donc je pense qu'on y voit un peu plus clair maintenant sur ce que c'est que l'hébergement et l'auto-hébergement. Voilà, il y a encore évidemment des discussions hein, chez les chatons entre autres, mais ailleurs par ailleurs. Néanmoins, pourquoi faudrait-il s'auto-héberger ? Pourquoi regarder ces solutions-là ? Pourquoi essayer de comprendre comment ça fonctionne ? Pourquoi essayer d'installer ses propres services sur son ordinateur chez soi ? Alors, je sais pas, Yves-Gaël peut-être ?
Oui, En fait, avant d'être dans le métier, j'ai commencé par m'auto-héberger, je pense, comme beaucoup de gens qui sont venus dans l'infra serveur. Donc, c'est les motivations de départ, je pense, quoi. En tout cas, dans mon cas, c'était de comprendre, déjà, parce que les sujets, même dans le monde libre, des associations Linux que je fréquentais à l'époque, il n'y avait pas encore une telle angoisse sur la donnée, je pense, qu'il peut y avoir maintenant. Mais avant toute chose, c'était comprendre comment ça marche, de mon côté en tout cas, et s'approprier les processus, les process de traitement de ces mails, et le défi technique aussi un peu de réussir à faire. Donc très vite, je me suis rapproché des assos comme ça, un peu pour travailler sur ces sujets-là.
Donc si je résume ta pensée, c'est finalement une volonté, un besoin de comprendre comment ça marchait en fait.
Ouais, je pense au départ, moi, c'était vraiment ça mon idée, mais c'était avant les années 2000. Donc je pense qu'on était un peu moins inquiet sur le traitement de la vie privée sur Internet. Je participe encore un peu à des assos, notamment sur Clisson, à une asso qui s'appelle Guildvin, où on aide un peu les gens à prendre en main l'informatique, on va dire. Et là, on voit que les gens viennent plus finalement pour comprendre où va leur donner. Donc je pense que c'est une deuxième inquiétude qui est peut-être un chouïa plus récente, quoi. Récente, on parle en dizaines d'années quand même, mais un chouïa plus récente et qui du coup crée un nouveau besoin sur cet auto-hébergement.
Très bien. Alors effectivement, tu remontes à 20-30 ans en arrière, et pendant ce laps de temps, plusieurs scandales ont évidemment révélé la vraie question centrale des données sur Internet. Il y a bien sûr eu les révélations d'Edward Snowden en juin 2013 qui ont... Alors, il n'y a pas eu que ce scandale-là, hein, Cambridge Analytica, etc. Je pense que si vous écoutez les podcasts de l'émission régulièrement, ou que même que vous en écoutez quelques-uns, vous avez plein d'exemples et de situations où la donnée est devenue un enjeu central, et évidemment en particulier pour les GAFAM. Donc évidemment, cette question-là est venue interroger la nécessité de l'auto-hébergement. Alors, on peut se donner quelques minutes, on va pas évidemment passer tout le sujet sur ce sujet-là, mais peut-être rappeler toute cette problématique liée à la donnée. Hein. Donc, la question du capitalisme de surveillance que Shoshana Zuboff révèle dans son ouvrage conséquent, hein, 800 pages, mais qui finalement nous montre vers quoi on va, et qui, du coup, alerte sur l'importance de questionner où sont nos données et de questionner la maîtrise de nos données. Donc je sais pas, j'imagine que Angie, tu as aussi des exemples un peu à nous donner pour illustrer un peu cette importance de la donnée et de la protection de la donnée que nous devons tous avoir.
Peut-être pour revenir du coup sur une formule que moi j'ai découvert finalement en arrivant chez Framasoft, que j'avais jamais entendu, et je me suis dit mais comment c'est possible, qui était le cloud c'est toujours l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Et je trouve que du coup c'est très parlant en fait pour parler de cette histoire des données stockées donc chez quelqu'un d'autre. Alors bien sûr quand c'est une grande entreprise on est bien au-delà de quelqu'un, un individu, mais on est quand même du coup dans une grande entreprise du web. Et aujourd'hui on se rend compte que le fait que ces données soient effectivement récoltées par les géants du web pose de nombreuses questions, que ce soit sur l'aspect économique. Ces entreprises sont quand même les plus grosses multinationales, les capitalisations boursières les plus élevées, et elles ont donc un pouvoir d'influence très très fort sur le reste du marché numérique, hein. Donc elles rachètent à tour de bras par exemple toutes les innovations, les entreprises innovantes qui proposent des solutions intéressantes. Donc elle tue le système de la concurrence et donc du coup récolte en fait des données qu'on éparpille un peu partout pour créer du coup des bases bien plus grandes. Ensuite bien sûr ces données elles servent à alimenter un système qui est celui tout simplement de l'exploitation de ces données pour générer une source d'argent. Alors ça va dépendre des types d'entreprises, elles vont pas tout le temps faire le même usage ces données, mais globalement on sait bien que souvent c'est ce qui alimente le modèle de la publicité ciblée. Aujourd'hui, c'est un des modèles les plus importants, ce qui fait qu'au regard des données qu'on collecte sur vous dans ces différents services, eh bien, on va pouvoir vous proposer la publicité qui correspond entre guillemets à ce que vous avez dit, diffusé, et sur lesquels vous pourrez tout simplement cliquer plus facilement et d'être donc des consommateurs plus actifs. Ça, c'est le premier élément important. Mais ça va au-delà de ça, puisque typiquement le scandale de Cambridge Analytica, par exemple, a mis en évidence, dans le cadre de Facebook en l'occurrence, que les données de millions d'utilisateurs, utilisatrices de Facebook avaient été récoltées pour avoir une idée de leur positionnement politique, pour ensuite faire des publications, puisque du coup c'était pas vraiment de la publicité, hein, c'était vraiment du coup adresser certaines publications de certains autres comptes à ses utilisateurs pour essayer du coup de leur faire changer d'avis, en particulier dans le cadre du coup des élections présidentielles américaines il y a maintenant 5 ans, enfin 4 ans et demi du coup, et aussi dans le cadre du Brexit, des élections pour le Brexit. Et donc il y a eu une influence très forte d'une partie des utilisateurs de Facebook pour leur faire changer d'avis. Donc là vous voyez que les données personnelles, elles sont pas du tout exploitées pour faire de l'argent, elles sont exploitées du coup pour générer un changement d'opinion politique, ou en tout cas un maintien dans certaines opinions politiques d'une partie de la population. Voilà, il y a plusieurs exemples de ce type, hein, c'est assez variable. Et puis après on va avoir tout simplement des structures effectivement qui revendent ces données à dans des choses un peu obscures du coup pour l'internaute lambda, et on se retrouve avec des données qui vont être exposées sur le web. L'autre fois je regardais un service qui s'appelle Have I Been Pwned, où en fait il faut regarder de voir si son mot de passe il a été récupéré un certain nombre de fois, et c'est assez indécent en fait de se rendre compte que voilà, on en laisse des traces d'il y a 10 ans ou 15 ans en arrière. Donc il y a vraiment un élément fort. Et puis enfin, et là pour le coup c'est pas sur l'exploitation de données, mais pour moi ça participe du capitalisme de surveillance dans sa globalité, c'est l'aspect de la domination culturelle, c'est-à-dire qu'on est face à des entreprises qui relèvent un modèle de société qui est celui de l'impérialisme américain, avec donc des choix de modération, de type de contenu possible ou pas, qui font que en fait ça formate nos comportements de manière très forte, et pour le coup ça nuit effectivement à nos libertés individuelles globalement.
Merci. Alors effectivement, hein, ça rejoint ce qu'a pointé Shoshana Zuboff, hein, sur la question du surplus comportemental qui alimente des bases de données, qui alimente les IA aussi pour faire de la reconnaissance faciale, savoir où sont les gens, où est-ce qu'ils sont passés, ce qu'ils font, avec qui, parce que c'est finalement ça qui est extrêmement important pour ces entreprises qui, à un moment donné, elles veulent deviner à l'avance ce que vous allez faire, quoi. Parfois elles savent avant vous ce qui se produit, hein. Moi, alors en préparant l'émission, je suis retombé sur la situation d'une jeune fille qui était enceinte et qui finalement recevait déjà des publicités pour des couches, etc., alors que son père n'était pas au courant. Ça, c'était au début des années 2010. Donc on est bien dans ces logiques là où finalement on veut prédire ce que les gens font. C'est une forme de pouvoir extrêmement fort, et plus on alimente les bases de données de ces géants, et plus on leur donne la matière pour finalement nous orienter par la suite, quoi. Donc voilà, c'est vrai que tous ces éléments-là, finalement, nous encouragent à nous poser la question, mais finalement, mes données, j'ai peut-être intérêt à les emmener chez moi, à les garder chez moi, et puis à les protéger fortement. Alors, ça veut dire aussi un peu un retour aux sources finalement, puisque sauf si je me trompe, hein, je suis pas un spécialiste d'Internet, mais en tout cas quand on commence à se poser ces questions-là et qu'on remonte à l'histoire d'Internet, c'était bien une logique décentralisée, et c'est là qu'on rejoint un petit peu aussi la logique des chatons. Mais est-ce que vous pouvez nous parler, nous expliquer un petit peu techniquement comment ça fonctionne cette logique initiale? Yves-Gaël, peut-être ?
Oui, si vous voulez. Alors, en fait, ça a fait un peu le yo-yo. C'est-à-dire qu'en suivant le coût du matériel et ses capacités de traitement, il y a eu un peu toutes les phases entre des gros serveurs externalisés et des petits serveurs en interne. Ce qui est assez drôle. Alors, pour rebondir un peu sur ce que disait Angie tout à l'heure, c'est sur la partie données, c'est très intéressant parce que souvent sur l'auto-hébergement, on se focus un peu sur les individus, sur les personnes qui traînent autour des associations de gens intéressés, on va dire, par la liberté au sens large. Mais ces données, effectivement, dans les problématiques de vie connectée actuelle, c'est un peu plus large que ça. Et c'est vrai que cette réflexion d'auto-hébergement, elle peut intéresser aussi des collectivités, par exemple, qui collectent des données pour leurs citoyens, pour des services ou autres. Et donc oui, pour répondre à cette question, il y a eu un départ relativement récent finalement vers le cloud en masse, et on voit un repli à l'heure actuelle, où il y a une espèce de retour, une réflexion vers ce qui est appelé le edge data center, en fait le retour à des machines qu'on peut au moins placer physiquement sur une carte, à défaut de tout externaliser. Voilà. Donc on va dire que l'histoire fait le yo-yo sur ces sujets-là.
D'accord. Et du coup, c'est vrai que le collectif de chatons est plutôt sur une logique où on redécentralise les données. Il n'y a pas une structure, une superstructure qui finalement est capable d'avoir des silos de données entiers. Chacun a un tout petit bout de données, et du coup, ça protège tout le monde, hein. Alors, c'est pareil en préparant l'émission. Bon, évidemment, je reparcours régulièrement le site. Je n'ai rien à cacher parce que tout le monde a été confronté à une personne qui répond systématiquement qu'elle n'a rien à cacher sur Internet et qu'elle ne ne fait donc pas attention à ces données, et ce site-là, justement, pour trouver des arguments concrets, solides, parce que finalement, on est toujours un peu sec pour répondre à ça, bah, je suis retombé quand même sur un article de Laurent Chemla dans Mediapart en 2015, qui expliquait bien que finalement, c'est pas tant nous-mêmes qu'on veut protéger, mais les autres. Et alors, j'ai trouvé un exemple avec des animaux, hein. On peut trouver de toute façon des exemples avec des êtres humains aussi, mais alors il y a des gens qui faisaient des safaris en Afrique et ils faisaient des photos qui étaient géolocalisées et après les postaient sur les réseaux sociaux. Donc les braconniers après finalement identifiaient la localisation de ces photos-là et trouvaient beaucoup plus facilement les rhinocéros pour les tuer et s'emparer de leurs cornes. Donc on voit bien que la question de je n'ai rien à cacher, elle est bien plus large que soi-même. Elle doit aller au-delà de soi et c'est bien pour protéger les autres aussi qu'il faut faire attention. Voilà, alors c'est vrai qu'on vide l'océan avec une petite cuillère, hein, puisque quand on envoie un mail avec Gmail, on sait bien que même quand on n'a pas un mail avec Gmail, on passe généralement par les serveurs de Google. Donc à chaque fois, si vos mails ne sont pas chiffrés, bah, les contenus sont lus, ou en tout cas les métadonnées sont collectées. Parce que finalement, c'est presque plus les métadonnées qui les intéressent que le fond même du mail. Mais c'est toutes ces questions-là qui, finalement, encouragent à se poser la question de l'auto-hébergement et à faire l'effort de beaucoup mieux maîtriser ces données.
Je pense qu'il y a aussi un élément assez important auquel moi, je n'avais pas trop réfléchi avant de préparer cette émission, c'est le fait que quand on passe par un hébergeur externe, et particulièrement les hébergeurs GAFAM, en fait, on n'a aucune assurance que nos données seront accessibles, voilà, c'est-à-dire qu'on peut nous les supprimer, nous supprimer cet accès d'un moment ou un autre. Voilà, il n'y a aucun engagement, puisqu'il n'y a aucune contractualisation réelle, du coup, de l'accès à ces données. Donc ça, c'est aussi une problématique. Et c'est pas, voilà, l'auto-hébergement règle bien sûr ça, puisqu'on sait quand ces données seront accessibles ou pas, puisqu'on gérera le matériel. Mais même si on passe par un tiers, et un peu plus éthique, du coup, souvent, on va contractualiser, donc avec un certain nombre de contreparties où on saura, effectivement, voilà, ce qui se passera, si, du coup, les données, sont perdues. Ça me fait penser à l'épisode de l'incendie au VH, où on s'est rendu compte que plein de petites entreprises, voire de particuliers, héberger leurs données, donc du coup dans cette entreprise, et j'avais jamais pensé que du coup il fallait qu'ils fassent des sauvegardes de ces données pour pouvoir y accéder au cas où il y aurait un souci technique. On est dans la même logique, en fait, c'est s'assurer par l'auto-hébergement, et donc peut-être qu'on y reviendra, mais dans l'auto-hébergement il y a aussi la notion, ok, c'est bien d'auto-héberger, mais comment on gère l'aspect sauvegarde?
Oui, bien sûr. Finalement, l'informatique se résumerait presque à la question de la sauvegarde. Alors, je me permets de préciser, parce qu'on m'a posé la question en off, là, mais ce que sont des métadonnées? Bah, les métadonnées, finalement, c'est pas le contenu même de votre mail, hein, qui intéresse forcément les superstructures, mais c'est plus finalement à quel moment la géolocalisation, parce que par exemple, en collectant vos données de géolocalisation, on va pouvoir savoir à quel endroit vous passez. Et donc on va pouvoir prédire à quel endroit vous allez passer, et si on arrive à prédire l'endroit où vous allez passer, ben on va pouvoir peut-être vous mettre la pub qui va convenir par rapport au magasin devant lequel vous passez. Voilà, c'est tous ces éléments-là qui sont finalement presque plus précieux que le contenu. Hein, c'était peut-être important de préciser ce que sont les métadonnées, parce que souvent on se dit, mais oui, en plus, c'est bien, quand on n'a rien à cacher, c'est pas que le contenu du message qu'on devrait cacher, c'est bien aussi tout le reste, hein, c'est bien aussi... quand est-ce qu'on écrit, à qui, parce qu'évidemment des graphes de connexion avec d'autres personnes sont constitués, on sait quelles sont vos relations, et donc on peut retrouver très facilement. Je me suis même fait peur, hein, je vous cache pas, en préparant l'émission, parce que je ne sais pas si vous avez en tête la scène dans Blade Runner où à un moment donné il est dans son canapé et il essaye de grossir une image qu'il a collectée. Alors à l'époque c'était les vieux magnétoscopes avec des grosses cassettes, bandes magnétiques, etc. Et puis bon, il avait déjà un programme qui lui permettait de grossir l'image à la voix. Bah, il faut savoir que maintenant, avec des appareils photo finalement qui font 48 mégapixels, et puis finalement des logiciels qui sont déjà en œuvre, on est capable de grossir la pupille d'un œil et de reconnaître des gens à l'intérieur de la pupille de l'œil. Donc voilà, ce qu'on trouvait ça incroyable dans les années 80 devient évidemment réalité. Alors on peut le dire de beaucoup de choses, mais en tout cas, oui, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oui, on a quand même fait un grand bond en avant. Et du coup, ça veut bien dire que là encore, finalement, si vous, ça ne vous dérange pas d'être pris en photo, supposez que vous rencontrez quelqu'un qui doit être protégé, un journaliste par exemple, et que vous êtes pris en photo, on est capable de savoir avec qui vous avez discuté. Hein. Enfin, donc voilà. Alors évidemment, c'est un peu. Ça fait un petit peu peur tout ça, et il n'y a pas que de la peur faut pas générer que de la peur, il y a aussi des belles choses dans Internet, hein, je tiens à le répéter, mais néanmoins, c'est important d'insister sur le fait que vos données sont vos données, il faut les protéger, quoi. Alors, est-ce que vous avez des choses à rajouter sur la raison pour laquelle il faut se poser des questions sur l'hébergement de ces données? Et alors après, on peut peut-être aussi étayer un peu la question des sauvegardes, hein, mais ça, ce sera peut-être plutôt dans une partie technique, je sais pas. Est-ce que vous voulez rajouter des choses?
Peut-être moi par rapport à la décentralisation, c'est-à-dire que effectivement l'idée de pas avoir toutes ces données auprès de d'un récolteur de données massif est importante, mais il y a aussi une notion du coup pour moi qui est plus humaniste, au sens où soit s'auto-héberger, soit passer par un tiers pour s'auto-héberger, mais un tiers local, a une incidence sur la répartition du coup de certaines économies sur le territoire, et du coup permettre, plus il y a d'acteurs en fait, plus on a de chance que de limiter cette centralisation et donc forcément les problématiques liées aux données personnelles et à la vie privée. Voilà, c'est juste une précision rapide.
Oui, je rajouterais même un petit point en plus en complément. Quand on parlait sauvegarde, faut donc parler réservabilité aussi des données. Donc c'est-à-dire que on peut récupérer ces données, et donc comme on est entre le fan de logiciels libres, on peut dire aussi de format ouvert, et du coup de s'assurer le fait que les différents opérateurs sur le territoire avec qui on veut travailler sont à même de les traiter une fois récupérés, parce qu'il y a aussi cette problématique là de on peut récupérer ces données, mais si on ne sait pas les lire, ou si le nouveau prestataire ne sait pas les lire, on n'en aura pas l'usage et la pleine propriété.
Merci, effectivement c'est important ces précisions, et moi aussi je prône, ayant travaillé dans les MJC, au local, ancré sur le territoire, moi aussi je prône la proximité et puis le lien physique avec les gens. Je repasse la parole à Isabella pour la pause musicale.
Merci Laurent, effectivement nous allons faire une pause musicale et nous allons écouter Drôle de cadence par Zicaro sous Creative Commons CC BY SA 3.0. Cette fois on est plutôt sur de la chanson française, c'est un swing d'inspiration manouche, on se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune 93.1. Mon peuple y danse sur une drôle de cadence, à croire que la transe en France, c'est pas du tout ce qu'on pense. Un terre porte sur la finance, à tout prix faut qu'on dépense. Si t'en as pas, t'as pas de chance. Et on nous dit, faut travailler, trimer, bosser, rester poli et rentrer dans les plis du lit comme un cafard qui zone tard le soir. Non, moi je vous le dis, on nous prend pour des collards et puis partir l'été. Dépenser ce qu'on a gagné, saler. Et puis se dire que vraiment, on a de la chance, encore une fois d'être en vacances. Regagne ce qu'on a dépensé cet été. Et puis se dire, allez courage, plus qu'un an à tirer. Et on est sur la plage, mon papy danse sur une drôle de cadence, à croire que la transe en France, c'est pas du tout ce qu'on pense. L'intérêt porte sur la finance, à tout prix faut qu'on dépense. Si t'en as pas, t'as pas de chance. Et c'est reparti, faut travailler, trimer, bosser, rester poli. Se faire du souci, ça développe les maladies et enrichit les pharmacies. Au moins quand on a le cancer, maintenant on sait à quoi on sert.
Drôle
Nous venons d'écouter Drôle de cadence par Zincaro, disponible sous licence libre CC BY SA 3.0.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous. Libre à vous. Libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi, de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune. Puis en podcast.
Nous allons poursuivre avec notre sujet principal sur l'auto-hébergement. Je suis Isabelle Lavani. Cette émission est consacrée justement à l'auto-hébergement. Et nous parlons de ce sujet avec nos personnes invitées, donc Angie Gaudion de l'association Framasoft et Yves-Gaël Chény de l'entreprise Empreinte Digitale. C'est Laurent Costi, administrateur de l'April, qui a préparé et qui anime cet échange. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sous le site causecommune.fm, bouton chat. Laurent, je te redonne la parole.
Merci Isabella. Donc nous reprenons le fil de la discussion. Donc dans un premier temps, nous avons défini ce qu'était l'auto-hébergement. Donc on y voit un peu plus clair désormais. Et puis nous avons aussi évoqué, et bien sûr, la raison pour laquelle il faudrait potentiellement s'auto-héberger. Alors je vous propose maintenant de se poser la question de savoir finalement comment concrètement on peut faire pour s'auto-héberger, quelles sont les précautions, quelles sont les règles à se donner, quelles sont les réflexions à avoir avant de s'auto-héberger, de se jeter sur un ordinateur pour installer un système qui permettrait de s'auto-héberger. Et puis quel système le cas échéant ? Yves-Gaël peut-être ?
Oh. Je préfère laisser la main à Angie pour débuter sur ce sujet, parce que je suis sûr qu'elle sera plus familiarisée que moi là-dessus.
Quel galant homme.
Merci. Du coup, pour moi, la première étape, c'est quand on envisage de s'auto-héberger, ça va être d'identifier en fait ce qu'on veut auto-héberger, c'est-à-dire quels sont les services qu'on souhaite auto-héberger et quels sont les où est-ce qu'on les a actuellement, enfin au temps T avant l'auto-hébergement, c'est-à-dire comment on va pouvoir faire la migration des données. Ça, c'est un élément important. Combien il y a de données, en fait, quel poids ça pèse, parce qu'il va bien falloir qu'on définisse du coup la taille de son auto-hébergement. Donc ça, c'est voilà, faire. En général, on parle d'un diagnostic tout simplement des usages. Voilà, qu'est-ce que j'utilise comme service numérique en ligne? Est-ce que du coup ces services, voilà, je peux rapatrier les données pour l'utiliser ou pas? Est-ce que je veux auto-héberger tous mes services numériques ou est-ce que seulement une partie? Ça, c'est des choix personnels qu'on peut définir. Évidemment, ça influera sur le coût total de cet auto-hébergement, puisque plus on va héberger de contenu, plus il faudra des supports de stockage élevés, donc plus ça aura des incidences forcément sur le coût. Bien sûr, se poser la question effectivement de est-ce que les données qu'on va héberger chez soi, elles sont bien du coup protégées. Ça posera la question effectivement du choix en fait du système d'hébergement qu'on va choisir. Quel niveau, en fait, on peut même se poser la question de voilà, quel est les niveaux de menaces auxquels on souhaite, en tout cas dont on souhaite se préserver. Donc ça, c'est des vraies questions en amont. Et pour moi, il y a un élément hyper important, c'est voilà le nombre d'utilisateurs potentiels. C'est-à-dire que là, on parle d'auto-hébergement. Voilà, si on parle à titre individuel, c'est est-ce que c'est que pour soi en tant qu'individu, est-ce que c'est pour soi sa famille, est-ce que c'est pour soi sa famille, son groupe d'amis. En gros, voilà, il va y avoir aussi une notion de est-ce qu'on crée un réseau de personnes derrière cet auto-hébergement. Et puis à part sûr, si on est une entreprise ou une collectivité, on va avoir ces mêmes questions, mais là ça semble assez évident. Mais souvent à titre individuel, on se pose pas toujours au début, on le fait pour soi et puis on l'ouvre petit à petit, et des fois ça peut être bien d'y penser dès le départ en fait. Donc vraiment de faire un diagnostic de voilà ce qu'on a aujourd'hui, ce qu'on voudrait mettre en place, pour qui, en gros.
Alors, supposons qu'on se soit posé toutes ces questions-là, n'importe qui, avec n'importe quelle compétence en informatique, voilà, je sais faire un peu de traitement de texte, j'en fais depuis 20 ans dans mon entreprise ou dans mon association, je peux me lancer sur l'installation d'un serveur chez moi ?
Ouais, c'était le petit complément, effectivement, c'est sur combien de temps j'ai à y passer et quelles compétences j'ai actuellement et du coup potentiellement de qui je peux me rapprocher pour avoir de l'aide, association ou entreprise ou amis sur le sujet. Je pense que c'est peut-être le petit delta à rajouter sur toute la bonne analyse d'avant.
Oui, hein, je pense que, alors, du coup, je peux témoigner à titre personnel. Alors, je ne suis pas geek au départ. C'est vrai qu'au fil des années, j'ai acquis quelques compétences et donc j'ai expérimenté un petit serveur chez moi à titre personnel pour héberger quelques données sans importance, pour encore une fois plutôt pour expérimenter. Bon, voilà, ça peut être très très déstabilisant. Par exemple, quand il y a une panne, ça reste très compliqué de savoir si c'est moi qui suis incompétent ou si finalement c'est une panne réseau qui est extérieure à ma gestion. Et à mes compétences. Donc c'est vrai que, soyons clairs, n'importe qui ne peut pas se lancer dans de l'auto-hébergement sérieux, surtout s'il souhaite l'ouvrir aux autres, hein. Je pense qu'il faut être quand même assez objectif par rapport à ça, et puis ne pas laisser penser aux gens qu'à partir du moment où ils auront compris et envie d'arrêter de laisser leurs données aux GAFAM, ils peuvent du jour au lendemain se lancer sur l'hébergement d'un serveur chez eux avec un vieil ordinateur qu'ils avaient dans un coin, quoi. Voilà, il faut être quand même très très clair sur cet aspect-là des choses. Néanmoins, c'est vrai que les outils ont énormément progressé. Pour le coup, moi j'ai découvert YunoHost il y a quelques mois maintenant. Hein. Je témoigne, hein, je fais un peu l'animateur et la personne qui témoigne. Je sais pas si c'est très 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 dans les canons, mais bon, en tout cas, je peux en parler un petit peu. C'est devenu effectivement assez simple d'utilisation, d'installation quand on a quelques bases, hein. C'est remarquable en termes, ça a été très travaillé aussi sur l'esthétisme, ce qui était toujours des reproches qui étaient faits à des logiciels libres. Il y a eu un gros effort de convergence sur la mise en page, hein. On a des, pour YunoHost en particulier, on a des petites briques très colorées, très simples d'accès. Enfin, voilà, ces services-là ont été simplifiés. Alors, on pourra sans doute faire plus tard dans l'année une émission spéciale sur ces outils-là, mais en tout cas moi je voulais témoigner que ce sont devenus des outils quand même beaucoup plus appropriables, hein. Il y a encore, je dirais, une petite dizaine d'années, il fallait systématiquement passer par de la ligne de commande, hein, le fameux terminal noir avec des écritures blanches ou même vertes à l'époque, pour pouvoir installer son serveur, l'administrer, le mettre à jour, trouver la panne, etc. Désormais, il y a une interface graphique qui est devenue très compréhensible, majoritairement en français, parce que c'est souvent aussi une limite pour les utilisateurs, hein. Les logiciels sont créés à l'étranger et du coup restent en anglais, et quand on ne maîtrise pas l'anglais, bah, ça reste beaucoup plus compliqué, on abandonne très vite. Donc en tout cas pour ces outils-là, il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits et ils s'améliorent encore tous les jours, mais encore une fois, voilà, n'importe qui ne peut pas se lancer dans de l'auto-hébergement. Alors, je sais pas, est-ce que vous pouvez témoigner? Est-ce que vous, à titre personnel, du coup, vous avez... Alors, bah, Yves-Gaël, oui, bien sûr, tu l'as dit, hein, t'as commencé par de l'auto-hébergement. Angie, toi, tu as dit que tu n'étais pas geek, donc j'imagine que tu t'es pas lancé ou que t'as pas eu le temps de... C'est plutôt une question de temps, hein, ça aussi, je le redis, Yves-Gaël l'a dit tout à l'heure. Est-ce que t'as eu l'occasion d'essayer, d'expérimenter?
J'ai vraiment expérimenté. Voilà, donc je me suis acheté un petit Raspberry et j'ai installé. Alors, effectivement YunoHost dessus.
On va peut-être expliquer, ouais. Parce que tout à l'heure Yves-Gaël aussi a évoqué ce qu'était un Raspberry Pi, peut-être que tu peux expliquer ce que c'est ?
Ouais, c'est un micro ordinateur en fait, donc un ordinateur qui du coup est composé d'une carte sur laquelle il y a beaucoup de petits éléments et qui coûte beaucoup moins cher qu'un ordinateur habituel. C'est autour, là bon, je crois que j'ai payé autour de 60 ou 80 euros, sur lequel on va rajouter ce dont on a besoin, et typiquement moi je rajoute un disque dur externe, donc il y a un tout petit espace de stockage interne, mais voilà, il faut un disque dur externe du coup si on veut stocker des données importantes. Il n'y a pas d'écran, enfin voilà, du coup c'est vraiment une petite carte qu'on va sûrement mettre dans une boîte parce que ça permet de le protéger, et que voilà, une sorte de mini ordinateur, un peu ce qu'on a dans nos ordinateurs portables d'ailleurs. Non, on est dans les mêmes logiques de matériel miniaturisé qui permettent de faire plein de choses, sauf que là, bah, on a un truc vide quand on l'achète, et qu'il faut installer un système d'exploitation ou une distribution, c'est déjà des termes un peu plus techniques, pour le faire fonctionner en fait. Et on peut y en faire plein de choses différentes. Voilà, en gros, pour le Raspberry. Merci, mais ça permet de tester, voilà, de manière aisée, sans investir dans quelque chose de très gros. Pour moi, il y a aussi un intérêt au Raspberry Pi, c'est que en termes de consommation énergétique, c'est pas du tout gourmand, donc c'est assez intéressant. Je pense qu'on reviendra sur cette question de la consommation énergétique dans l'hébergement. Et donc voilà, j'ai installé YunoHost. Je n'ai pas du tout trouvé simple parce que j'ai eu plein de bugs en fait à l'installation, et bien sûr je me suis retrouvée avec des trucs, bah voilà, je suivais le tutoriel et ça marchait pas. Donc ça va, il y avait des gens autour de moi qui ont pu me dire non mais là en fait c'est parce que du coup t'as mal paramétré ça avant de faire l'installation. Bah ouais, mais comment je l'aurais deviné? Donc non, pour moi c'est pas du tout accessible à des personnes qui ont pas un niveau de compétence numérique relativement élevé. Pour moi il y a un autre enjeu aussi assez fort, et que ce soit Windows ou les autres, hein, mais c'est le fait de justement pouvoir réellement se protéger par exemple du spam. Je pense si on voilà, si on auto-héberge un service de mail, derrière, c'est hyper, enfin, c'est un service qui est très très compliqué à gérer. Alors pas au plan technique, mais sur comment s'assurer que tous ces mails sont distribués auprès de nos destinataires, s'assurer que on reçoit du coup les mails que nos expéditeurs nous envoient, ne pas tomber dans les boîtes spam de tout le monde, ne pas être spammé rapidement et donc avoir des bons systèmes. Tout ça, c'est quand même techniquement pas si simple. Donc moi, ce que j'ai fait, bah, je suis allée chez un des chatons, donc, voilà, chez une des structures du collectif, et c'est très bien, j'ai des gens compétents qui gèrent tout ça pour moi.
Non, c'est vrai que c'est un vrai métier, hein, maintenant, que la distribution de mails, hein, c'est un point extrêmement important, et même faire comprendre ça aux personnes qui utilisent simplement le mail habituellement, en disant bah oui, mon mail a pas été reçu, etc. C'est vrai que ça reste d'une grande, grande complexité, même à expliquer, quoi. Donc c'est bien que tu puisses donner un point de vue d'utilisateur, je dirais, non technicien avancé, on va dire comme ça. Moi, je te rejoins sur l'analyse. Alors, donc, on parle, je crois même que pour le Raspberry Pi et puis toutes ces cartes, on parle même de nano-ordinateur, puisque finalement le micro-ordinateur, c'était déjà le nom qu'on donnait dans les années 80 au PC, me semble-t-il. Donc on parle même de nano-ordinateur, puisque effectivement ça tient dans la main, hein, la taille de la carte. Et puis on a limité, je crois, toute la consommation. C'est pas des disques durs mécaniques qui consomment un peu plus à cause du moteur, etc. Donc tout ça, ça a été pensé effectivement pour pouvoir consommer un petit peu moins. Dans les projets un peu de nano-ordinateur. Alors moi, je sais pour faire un petit témoignage, mais moi j'ai acheté une brique, ce qu'on appelle une brique internet. C'est quelque chose, c'est un service qui est mis en place. Alors je crois que la FDN, Fédération Data Network, propose ce service-là pour l'occasion là. Moi je l'ai acheté en Belgique, et donc c'est vrai qu'il paramètre le système au départ, et après nous, après moi je viens ajouter des services. Et assez simplement, il y a un magasin, hein, de logiciels qu'on peut rajouter sur notre serveur, et puis rajouter plein de services. On peut rajouter un blog assez simplement. Il y a énormément de services qui sont possibles. On peut même justement rajouter une petite brique qui permet de créer des mails temporaires, par exemple. Et ça, je trouve ça assez pratique, par exemple, quand il faut donner son mail à une structure commerciale qui va systématiquement nous renvoyer derrière des spams. Et puis on lui dit, bah voilà, ce mail-là, il va durer 3 mois, puis après tu l'écrases. En 3 mois, on a fini les échanges avec la structure, et du coup, ça peut disparaître. Bon, voilà. Si on doit résumer, je dirais que c'est vrai que la plus grosse difficulté, c'est bien la question technique. Il faut bien mesurer ses compétences techniques. Mais par contre, moi, ce que j'ai trouvé assez jouissif dans cette expérimentation-là, c'est qu'on acquiert très très vite des compétences. On comprend, enfin, on assoit des compétences qu'on avait déjà testées avec un système GNU Linux au quotidien. Donc voilà, on apprend vite, et les tutoriels sont bien faits, encore une fois en français. Donc oui, il y a des fois on bloque. On peut aller sur les forums. Moi, je me suis beaucoup fait aider sur le forum de Why You Know Host. Ils sont très réactifs. Donc voilà, ça aussi, c'est extrêmement intéressant dans le lien et dans l'échange, quoi. Bon, alors évidemment, si jamais on se lance, le seul et unique conseil qu'il faut peut-être donner, c'est finalement maîtriser vos sauvegardes. Si vous maîtrisez vos sauvegardes, bon, bah, vous finirez toujours par vous en sortir, quoi. Donc voilà, moi j'espère que cette synthèse-là vous satisfait. Je ne sais pas si vous voulez compléter. Et après, on a déjà évoqué un peu les points, mais on pourra peut-être parler des limites de l'auto-hébergement. On vient d'en évoquer une grosse, qui est la question de la compétence. On pourra repasser en revue peut-être les autres éléments.
J'en rebondis juste sur ce que tu as dit à propos de la brique. Donc ouais, c'est pas exactement le même matériel que le Raspberry Pi. C'est un matériel qui est un peu plus ouvert que le Raspberry Pi. Le Raspberry Pi a l'intérêt d'avoir une grosse communauté en fait actuellement, mais c'est pas forcément la carte la plus ouverte en termes de format d'un point de vue électronique.
Oui, je crois que c'est une carte Olimex, hein, c'est ça.
Ouais, tout à fait. Ouais, c'est un Olix Uino.
Voilà. Donc c'est vrai que c'est pareil, ça s'est multiplié dans le commerce. Alors il y en a qui sont plus ou moins ouvertes, c'est important de le préciser. Donc par rapport aux limites de l'auto-hébergement, bah, on a évoqué, hein, la question de la compétence, elle est centrale, hein. Si vous vous sentez pas à l'aise, ne vous lancez pas dans de l'auto-hébergement, et puis du coup rapprochez-vous des chatons. La sécurité, Angie l'a un peu évoqué. Peut-être que Yves-Gaël, tu peux nous en dire plus, toi, puisque c'est presque ton quotidien que cette question de la sécurité, d'autant plus quand on doit penser, en tout cas pour une entreprise, à la question du RGPD.
Oui, tout à fait. Bah, c'est clair, c'est un des points noirs, on va dire, de l'auto-hébergement. C'est l'un des gros sujets sur lesquels c'est dangereux, entre guillemets, d'y aller seul, alors sans vouloir faire de l'alarmisme. Hein, mais c'est si on veut protéger ses données en s'auto-hébergeant et que finalement on ouvre un peu trop gros les portes, un peu trop grand les portes, et que quelqu'un de mal intentionné ou d'un peu trop curieux vient fouiller dans vos affaires personnelles. Ce n'est jamais très agréable. Et là, même les backups, ça nous protégera des pertes, mais ça ne nous protégera pas des fuites. Donc, dans le sujet de la sécurité, c'est un sujet qui est plus en plus complexe. Hein. On l'a vu, même des structures très sérieuses, étatiques, type AFNOR ou autres, ont été piratées sur la dernière année, ont eu des logiciels qui sont venus chiffrer l'intégralité de leurs données. Donc ça demande de faire des audits réguliers, ça demande d'être bien à jour sur ces versions de Linux ou de package pour être sûr d'avoir corrigé les failles existantes. Ça demande de faire des paramétrages en fonction du service que l'on héberge. Quand je dis service, j'entends une page web, un service email, comme ça a été évoqué. Donc c'est vrai que il y a toute cette technique-là qui est assez pointue finalement à appréhender quand on décide de s'auto-héberger.
Merci. En préparant l'émission, on a aussi évoqué la question de l'énergie, de la consommation. Angie l'a un petit peu évoqué en disant que les nano-ordinateurs étaient un peu moins consommateurs. Mais finalement, si on remplace actuellement tous les serveurs centralisés des gros GAFAM par autant de serveurs individuels, même avec des nano-ordinateurs, est-ce que c'est quelque chose de réaliste sur le plan énergétique ?
Alors, j'ai fait 2-3 petits calculs vite fait, justement. Avant l'émission, pour être sûr, au niveau d'un Raspberry Pi, on tourne autour de 6 watts de mémoire. Sur un serveur tel que ceux que nous, on utilise. Nous, on n'est pas des GAFAM, hein. On a un petit centre d'hébergeurs très humble à côté de ce qui peut exister. Mais on va dire sur un serveur type, donc c'est 2 gros processeurs avec plein de cœurs et beaucoup de mémoire sur laquelle on va faire tourner par exemple 80 sites web. On va arriver à une consommation autour de 70 watts. Donc vous allez voir sur une consommation moyenne, hein, sur une journée. Donc il y a des pics forcément. Donc on va se rendre compte assez vite que finalement ça représente que 10 Raspberry Pi. Alors les 10 Raspberry Pi, en termes de puissance, ils vont être à peu près 100 fois en dessous. Donc on peut se dire qu'en termes d'efficacité énergétique, on a peut-être un petit ratio autour de 10. Alors c'est pas ouf. Mais c'est pas les mêmes usages non plus, bien sûr, hein, c'est certain.
Oui, et puis le temps qu'on remplace tous les serveurs des GAFAM par des nano-ordinateurs, on a le temps de voir venir, c'est le cas de le dire. Hein. Donc faut pas se freiner à cause de l'énergie pour l'instant. La question doit se poser et il faut systématiquement penser à la sobriété de notre matériel informatique. Néanmoins, faut pas s'interdire de réfléchir à ces situations-là et après peut-être réfléchir à des logiques plutôt chatons, justement, chercher un chaton si on n'est pas à l'aise techniquement. C'est peut-être ça, finalement, le conseil qu'on pourrait donner, Angie.
Oui, alors que ce soit sur le plan technique ou sur justement la question énergétique, les chatons, enfin les structures qui sont membres du collectif, voilà, sont composées de personnes qui du coup réfléchissent en tout cas à ces questions et essayent de faire au mieux. Moi, j'ai un autre élément aussi sur l'aspect énergétique qui me semble assez intéressant. J'ai lu sur plein d'endroits que l'auto-hébergement c'était cool, on pouvait récupérer son ancien ordinateur et installer son serveur dessus. J'ai mis une énorme réserve au sens où les anciens ordinateurs en fait consomment vraiment beaucoup d'énergie. C'est-à-dire que voilà, ceux qui ont 10 ans, qui pourraient très bien être utilisés en tant que serveur, c'est-à-dire que souvent il n'y a pas besoin d'avoir des machines de guerre pour un serveur en auto-hébergement. Mais attention, parce que souvent c'est des machines qui pour le coup n'ont pas été pensées au moment de leur conception avec justement cette régulation énergétique. Voilà, donc c'est bien parce qu'on recycle. Donc en fait tout dépend ce qu'on entend dans l'énergie, c'est-à-dire qu'on utilise du matériel qui n'est plus utilisé, que en termes de recyclage, de toute façon on sait bien qu'on peut pas en faire grand chose pour un usage, mais en même temps on consomme plus d'énergie. Voilà, donc c'est le paradoxe, voilà, de quand on calcule en tout cas un coût écologique, en fait c'est toujours compliqué de savoir sur quels aspects on va.
Oui, alors après faut pas oublier non plus l'énergie grise, mais c'est bien que, alors j'allais recommander aux gens justement de recycler leurs appareils, bon, mais c'est bien que tu mettes ce petit bémol là. Néanmoins, faut pas non plus négliger l'énergie grise, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, hein, toute l'énergie qui est nécessaire à la fabrication de l'appareil, où finalement elle est bien supérieure à tout le temps d'utilisation de l'appareil. Bon, mais voilà, tout ça ça se pèse, ça se met dans la balance. Peut-être que vos vieux appareils, en tout cas, vous pouvez l'utiliser pour expérimenter, ne serait-ce que pour acquérir les compétences, pour tester, voilà, sans le faire tourner 24 heures sur 24, mais au moins vous allez pouvoir peut-être tester quelques fois la fonction de mise à disposition de fichiers, etc., etc. C'est peut-être une bonne approche pour essayer avant d'acheter, par exemple, un nano ordinateur, si vous avez l'intention de laisser un serveur tourner longtemps. Voilà, c'est peut-être un peu ces logiques-là.
Et puis, peut-être pour rebondir, tu parlais de 24 heures sur 24, peut-être qu'on n'a pas besoin que ces données soient accessibles tout le temps, donc on peut aussi mettre en place des programmateurs qui, du coup, allument et éteignent, du coup, notre serveur auto-hébergé en fonction de nos besoins. Bien Alors, sûr. Ça dépend combien on est dessus, ça dépend, le type de contenu qu'on a diffusé, mais je trouve que c'est quelque chose qu'on oublie parfois et qui peut être assez intéressant. Et puis aussi, on peut peut-être penser, du coup, à avoir de l'énergie renouvelable. Je pense qu'il y a, du coup, on trouve des tutoriels sur, comment connecter, par exemple, un Raspberry à un panneau solaire en direct. Et là, pour le coup, on a encore une autre rapport écologique sur l'alimentation, effectivement, de son auto-hébergement.
Tout à fait. Ouais.
C'est vrai que... sur ce sujet du Raspberry Pi branché à un panneau solaire, effectivement, les curieux de la cartographie et fans d'OpenStreetMap peuvent aller jeter un petit coup d'œil du côté des projets autour des balises RTK ou autres qui, du coup, utilisent ce procédé de façon assez heureuse.
Très bien, merci pour ces précisions. Alors, c'est vrai que... si on met un serveur pour les photos familiales, peut-être que le serveur n'a pas besoin d'être connecté entre 23h et 7h du matin, hein. Personne va aller consulter les photos du serveur pendant la nuit. Donc voilà, pour illustrer un peu ce que tu disais Angie. Bon, alors après, effectivement, si on veut héberger ces données de manière un peu réfléchie, bon ben le collectif chaton est là pour vous, hein. Je crois que j'ai cherché sur internet avant, mais je crois que c'est quand même la plus grosse communauté dans la galaxie d'hébergeurs ouvert et transparent. J'en ai pas vu ailleurs. On peut y aller. En tout cas dans le système solaire. J'ai pas vérifié la galaxie, mais je crois que vous pouvez avoir confiance là-dedans. Une dernière question à tous les deux avant de se quitter. C'est peut-être la question bonus que je vous ai pas fait préparer. Mais c'est finalement comment vous voyez l'évolution de l'auto-hébergement dans les années à venir là, Angie?
Bah du coup, alors bon, moi avec ma casquette et mon prisme chaton, tu vois, je revendique pas l'auto-hébergement au sens héberger chez soi. Pour moi, il y a vraiment ce truc de justement avoir dans une proximité des collectifs, des structures qui vont héberger les données de tout à chacun. Et je pense qu'on va vers de plus en plus effectivement de relocalisation. On parlait tout à l'heure de décentralisation, mais du coup ça va pour moi avec aussi une notion de relocalisation, de pouvoir rencontrer le prestataire qui va gérer les services auxquels je souhaite accéder, mes données, pouvoir faire avec cette notion du coup de justement avoir une transmission de compétences en se tournant vers des personnes qui les ont déjà et qui vont pouvoir entre guillemets nous les transmettre et donc faire partie d'un projet plus collectif. Je pense que c'est assez intéressant. Je suis tombée sur un truc de disant si on veut monter un auto-hébergement, peut-être qu'il faut le penser de manière collective, c'est trouver des voisins qui sont intéressés, certains ayant les compétences, certains ayant la disponibilité, et trouver la façon d'organiser tout ça et en gros devenir même si c'est pas forcément une démarche qui sera validée, mais en tout cas de faire une sorte de chaton autour de soi, quoi.
Merci.
Je joins mes voeux à ceux d'Angie là-dessus. Je vois vraiment cela, oui, effectivement, comme des actions collectives, hein, qu'elles soient professionnelles ou associatives. C'est ce côté à la fois distribué, réparti sur le monde entier, espérons, mais au moins en France, sur des systèmes ou des services auto-interopérables, open source, ouverts, avec des gens qui sont prêts à partager leurs connaissances et puis à travailler tous ensemble. Ça serait vraiment magnifique.
Eh ben merci beaucoup pour ces mots de la fin. Ben, je vais vous remercier tous les deux pour cet échange, moi qui pour lequel j'ai beaucoup appris, et puis je pense que j'espère qu'on a donné envie aux gens d'essayer ou en tout cas de se questionner par rapport à leurs données. Merci à tous les deux et je repasse la parole à Isabella.
Oui, merci Angie et Yves-Gaël. Je remonte juste deux remarques, quelques remarques intéressantes qu'on a eues sur le salon de WebChat. Il y a une personne qui dit je suis content de YouNoHost, je l'ai depuis plusieurs années, je suis pas informaticien à la base, j'en suis content. Et une autre personne qui dit la partie la plus compliquée, c'est avec l'opérateur de la box. Voilà, pour revenir sur le même sujet, c'est-à-dire que c'est hyper intéressant et on vous invite, si vous en avez envie, à expérimenter. Voilà, petit point de vigilance sur la partie box, visiblement. Merci Laurent pour avoir préparé et animé ce sujet.